La prédication protestante. La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose son interprétation d'un texte de la Bible.
Bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Prédication protestante. Aujourd'hui, pour ceux qui veulent suivre dans leur Bible ou sur leur smartphone, eh bien on va lire dans le chapitre 28 de l'Évangile selon Matthieu. Avant de lire ce passage, vous dire que dans notre église, on a lancé un défi aux membres de notre église, c'est de lire chaque jour un chapitre du Nouveau Testament. On a commencé la lecture de l'Évangile de Matthieu, on est donc à la fin de la lecture de cet Évangile, c'est le chapitre 28, et on va démarrer l'Épître aux Romains bientôt. Voilà, si vous voulez vous lancer vous aussi dans cette aventure, lire le Nouveau Testament, ça peut se faire en une année, à raison d'un chapitre par jour, se replonger dans les Écritures et puis s'arrêter de temps en temps pour écouter une exhortation, une méditation. Voilà, c'est le défi qui a été lancé dans notre communauté, mais on imagine que ça peut être lancé individuellement ou dans d'autres communautés. En tout cas, voilà, comme nous en sommes au chapitre 28, on vous invite à l'écouter et puis dans quelques instants à écouter la méditation de ce passage pour mieux comprendre ce que Matthieu voulait dire aux frères et aux sœurs de son époque et ce que Dieu veut certainement nous dire aujourd'hui. Matthieu 28, à partir du verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. » Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions, et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Voilà, nous avons fait la lecture de ce chapitre 28 de l'Évangile de Matthieu, et il faut bien qu'on réalise en fait que ce chapitre 28, et il faut bien qu'on réalise bien sûr que ce chapitre 28, c'est la fin de l'Évangile de Matthieu, c'est donc la fin de l'histoire. Et quand on est écrivain, quand on rapporte une histoire aussi importante, en tout cas on imagine que pour l'évangéliste, cette histoire est terriblement importante, on imagine que conclure le récit, c'est un moment aussi très important. Et on va constater que dans les détails et dans le fond de son histoire, eh bien Matthieu prend un grand soin à raconter la fin de ce récit extraordinaire, la résurrection de Jésus. Jusqu'avant, nous avons eu la vie de Jésus, la naissance de Jésus, son ministère, la mort de Jésus. L'évangéliste s'arrête assez longuement sur tous les détails de sa mort. Et puis un seul petit chapitre pour raconter la résurrection de Jésus. Quand on lit ce chapitre et qu'on le compare, peut-être avez-vous eu envie de temps en temps de comparer un peu ce récit aux autres évangélistes, on voit évidemment qu'il y a des détails qui ne collent pas vraiment. Et on peut ne pas être surpris par ces différences. Évidemment, si vous avez assisté à un événement important, à un accident ou à un événement joyeux et que vous le racontez, vous vous apercevrez que quatre mêmes personnes ou quatre personnes assistant au même événement, eh bien, vont le raconter de façon différente. Lorsqu'on lit le récit de Matthieu, la résurrection de Jésus, on s'aperçoit que Matthieu le raconte d'une façon légèrement différente. Il omet certains détails et il en ajoute d'autres. Matthieu est le seul à nous parler, en fait, précisément de ce tremblement de terre, de cet ange qui descend, qui roule la pierre et qui reste assis sur la pierre. Et on est vraiment frappé par les détails de ce récit. Des détails qui ne sont donnés nulle part ailleurs, ni par Luc, ni par Marc, ni par Jean. Un ange au lieu de deux. Vous savez que dans d'autres évangiles, on parle de deux anges. Et puis, deux femmes au lieu d'une, comme dans les autres évangiles, comme dans l'évangile de Jean, où l'accent est mis sur Marie de Magdala. On peut être gêné par tous ces détails qui ne collent pas bien. Et on peut aussi, au contraire, constater qu'il y a une cohérence globale. C'est-à-dire que si des enquêteurs devaient écouter des témoins, et si les quatre récits des quatre évangélistes étaient exactement les mêmes, eh bien on pourrait se douter qu'il y a eu une sorte d'accord passé pour raconter quelque chose qui ne s'est peut-être pas passé de la même façon. Dans ces détails, nous pouvons voir la marque de témoins oculaires qui ont effectivement constaté, qui ont effectivement assisté à ces scènes, mais qui les racontent de façon différente. Par exemple, si on prend l'ensemble du récit, on voit que Matthieu ne va pas s'attarder sur les apparitions de Jésus en Judée, à Jérusalem, tout ce qui se passe de suite après la résurrection de Jésus. Matthieu va de suite parler de ce moment où les disciples sont appelés à venir en Galilée, sur la montagne, pour entendre cette parole extraordinaire de Jésus sur laquelle nous reviendrons. Mais nous voyons que Matthieu, alors que dans notre idée, si je me mets à la place de Matthieu, je pense que j'aurais essayé de n'oublier absolument rien. Et peut-être que pour prouver la résurrection, j'aurais vraiment mis toutes les chances de mon côté et j'aurais noté tous les détails, toutes les apparitions de Jésus. On voit que l'objectif de Matthieu est un peu différent. Il s'arrête sur les femmes, il s'arrête sur ce moment où l'ange parle aux femmes, et puis ensuite sur ce moment important où Jésus sur la montagne, encore une fois, c'est impressionnant de voir que souvent les choses importantes de la vie de Jésus se sont passées sur une montagne. L'inauguration de son ministère, le sermon sur la montagne, la transfiguration, et puis cette résurrection et ses paroles adressées à ses 11 disciples. Mais Matthieu s'arrête finalement à ces moments-là, ces moments importants, sans tout raconter. Et je trouve que c'est assez extraordinaire la confiance de Matthieu dans son récit. Il se dit, voilà, il suffit que je raconte cela. Il suffit que je m'arrête aux choses les plus importantes et je n'ai pas besoin d'en rajouter. Dans les détails, et dans notre époque troublée, on pourrait aussi être marqué et agréablement surpris que Jésus apparaisse d'abord à des femmes. Et se dire aussi que ces femmes-là ont été certainement les plus courageuses, puisque c'est elles qui se retrouvent devant le tombeau, c'est elles qui ont le courage de venir voir leur Seigneur alors qu'il est dans le sépulcre, et c'est elles qui vont se retrouver face à l'ange et face aux soldats. Les détails qui existent dans l'évangile de Matthieu, dans ce texte que nous venons de lire et qui ne sont pas présents dans les autres évangiles, c'est aussi la présence des soldats et la peur des soldats. On dit qu'ils sont comme morts tellement ils sont impressionnés par ce tremblement de terre, par cette pierre qui roule et par cet ange qu'on décrit comme un éclair et avec un vêtement blanc comme la neige. C'est impressionnant de voir les détails que donne Matthieu et c'est impressionnant de voir aussi combien l'ange va avoir du tact avec ces femmes qui sont venues voir Jésus. L'ange rassure les femmes, mais ne rassure pas les soldats. Vous avez peut-être entendu dans ce récit, « Quant à vous, mais vous, n'ayez pas peur. » L'ange va rassurer les femmes et va laisser les soldats dans leur frayeur et dans leur terreur. Les soldats ne comprennent pas ce qui se passe et ils n'ont pas les informations pour interpréter ce qui est en train de se passer. Les femmes, finalement, sont venues chercher Jésus, c'est ce que l'ange leur dit. « Vous êtes venues chercher Jésus. » Rassurez-vous, il n'est pas ici, il est ressuscité. Et on voit aussi tout le tact de Dieu, toute la patience de Dieu, toute la pédagogie de Dieu qui va, par l'intermédiaire de l'ange, dire à ces femmes de prendre le temps. Si elles étaient parties de suite, peut-être qu'ensuite on leur aurait reproché de ne pas être entrées dans le tombeau, de ne pas avoir vu le tombeau vide. L'ange leur dit « Venez ». Venez, voyez où il avait été couché, regardez, il n'est plus là. Et ensuite, l'ange va leur donner une mission, après les avoir rassurés, n'ayez pas peur. Allez maintenant dire aux disciples de me rejoindre en Galilée ou de m'attendre en Galilée. On voit vraiment toute l'affection, toute la patience de Dieu à travers les paroles de l'ange vis-à-vis des femmes. Et puis, il y a cette rencontre des femmes avec Jésus. C'est raconté différemment dans l'évangile de Jean, où on a vraiment ce récit qui met en avant Marie de Magdala. Peut-être que Jésus est apparu une première fois à Marie de Magdala seule et ensuite aux femmes. En tout cas, Jean s'arrête sur ces deux femmes qui vont voir Jésus et qui vont s'agripper à ses pieds. Et je trouve que cette expression dans le grec est étonnante et intéressante, parce que finalement, dans les évangiles, nous trouvons des récits. On n'a pas un moment où on nous explique, voilà, Jésus était vraiment Dieu parce que, regardez, les femmes se sont accrochées à ses pieds, donc Jésus n'était pas un fantôme ou un pur esprit, mais on nous raconte simplement ce qui s'est passé, et en nous racontant ce qui s'est passé de façon détaillée, on peut comprendre tout l'argumentaire, hein, tout ce qui se cache derrière, tout ce qui se cache de beau. Hein. Si les femmes se sont agrippées aux pieds de Jésus, c'est que Jésus n'était pas un pur esprit et pas un fantôme. Et si les femmes se sont agenouillées devant lui et que Jésus ne les a pas relevées, c'est que Jésus considérait bien qu'il était Dieu. Vous vous souvenez peut-être que dans le livre des Actes, lorsque les apôtres sont à l'origine de quelques miracles, bien, et que les gens se prosternent devant eux, les apôtres relèvent les gens en leur disant « Non, 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 ne nous adorez pas, nous sommes comme vous, nous sommes des hommes comme vous. » Et Jésus ne se comporte pas comme les apôtres. Jésus accepte l'adoration des femmes parce qu'il est en train de reconnaître qu'il est réellement Dieu et qu'il mérite l'adoration. Et vous savez, pour des juives, pour des femmes juives, se mettre à genoux, se prosterner devant quelqu'un, c'était vraiment un signe d'adoration. Hein. S'accrocher à ses pieds, constater qu'il était réellement vivant et ressuscité, hein, que son corps était ressuscité, et puis l'adorer, c'était vraiment un geste fort. Et Jésus va renouveler cette parole maintenant, aller dire à mes frères, et c'est la première fois que Jésus utilise le mot frère pour parler de ses disciples, aller dire à mes frères de me retrouver en Galilée. Et après cette apparition, on laisse en fait les femmes pleines de crainte et de joie. D'ailleurs, Jésus leur dit « n'ayez pas peur », alors que les femmes semblent remplies plutôt d'une grande joie. Devant l'ange, elles sont dans un mélange de crainte et de joie, et devant Jésus, on ne nous parle pas de peur, mais Jésus leur dit « n'ayez pas peur ». Et peut-être qu'il faut raccrocher en fait cette parole de Jésus à ce que dit Jésus à Marie de Magdeleine dans l'évangile de Jean, hein, « ne me retiens pas ». D'une certaine façon, peut-être que les femmes avaient peur de laisser Jésus, de l'abandonner une nouvelle fois, de ne pas pouvoir prouver qu'il était vraiment ressuscité. Il fallait qu'elles partent sans Jésus pour dire quelque chose aux disciples que les disciples ne croiraient peut-être pas. Et Jésus leur dit « n'ayez pas peur ». Voilà, allez maintenant dire à mes frères, hein, ces disciples qui sont devenus des frères, qui sont enfants de Dieu, allez leur dire de m'attendre en Galilée. Et les femmes vont partir, hein, promptement, comme Jésus le leur demande, rapidement, pour obéir à cet ordre de Jésus. C'est le premier enseignement de ce passage. Ce sont tous les détails, la cohérence globale avec les autres évangiles, et cette affection, cette tendresse de Dieu vis-à-vis de ces femmes qui seront les premiers témoins, hein, à qui un honneur est fait, et qui vont ensuite courir, hein, pour annoncer aux disciples que Jésus est ressuscité et qu'il les attend en Galilée. Ça, c'est le premier point. C'est remarquable, c'est extraordinaire. On y croit ou on n'y croit pas, mais en tout cas, on a un récit plein de petits détails, hein, qui montrent que quelqu'un a vu quelque chose et qu'il l'a raconté. Et ensuite, on se retrouve devant une difficulté. Est-ce que nous croyons ce que les gens nous racontent ? Et peut-être que cela va dépendre de qui nous le raconte, hein. Matthieu va raconter à des gens qu'il connaît, et petit à petit, ces gens qu'il connaît, connaissant Matthieu, vont peut-être être touchés ou pas. Et c'est dans la deuxième partie du récit qu'on comprend que des gens, même devant l'évidence, même devant Jésus ressuscité, même devant la présence d'un ange assis sur une pierre roulée, eh bien ne vont pas croire. Ou bien, tout en croyant un peu au fond de leur cœur, vont finalement s'opposer. C'est ce qui m'impressionne peut-être le plus dans ce récit. C'est l'attitude des chefs des prêtres, hein, les chefs religieux, ceux qui avaient une bonne connaissance du texte sacré, hein, ceux qui connaissaient les textes transmis par Dieu, par les prophètes, ceux qui savaient qu'un Messie devait venir, qui entendent le récit des soldats. Quand on entend le mot soldat, on pense peut-être aux Romains, mais ici il ne s'agissait pas des Romains, il s'agissait des soldats de la garde du Sanhédrin, donc des Juifs envoyés par les chefs des prêtres. Et quand ils entendent le récit de ces soldats, qui vont raconter, eh bien, qu'il y a eu un tremblement de terre, qu'un ange est descendu, que la pierre a été roulée, que Jésus a disparu, au lieu de revenir peut-être sur leur idée, au lieu de se dire, eh bien voilà, des soldats en qui nous avons confiance, nous racontent quelque chose d'extraordinaire et qu'on appréhendait, parce que peut-être que quand même, pour certains, ils se disaient, on espère qu'on ne s'est pas trompé avec Jésus, que ce n'est pas vraiment le Messie, au lieu de revenir, hein, sur leur conviction et de reconnaître que Jésus est ressuscité, qu'il est le Messie, ils vont s'opposer jusqu'au bout. Hein. Non seulement ils ne vont pas croire, ou alors ils vont croire mais refuser de l'admettre. Vous savez, je pense à des gens qui, peut-être pendant toute leur vie, vont refuser l'évangile, vont refuser l'idée de Dieu, vont refuser l'idée que Jésus a pu exister, qu'il a pu mourir sur la croix et ressusciter, et puis qui, vers la fin de leur vie, commencent à y croire, mais ont du mal à le reconnaître parce qu'il faudrait admettre que toute leur vie, ils se sont trompés. Je crois que pour les pharisiens, il y a eu un problème de fierté et de honte, hein, et c'est certainement l'orgueil qui les a éloignés de la foi et de la reconnaissance de Jésus comme Messie. Il fallait à ce moment-là reconnaître qu'ils s'étaient trompés. Il fallait reconnaître qu'ils avaient poussé le Messie vers la crucifixion, vers la croix, vers la mort. Il fallait reconnaître que eux, les grands chefs, c'est-à-dire ceux qui enseignent, ceux qui ont autorité, s'étaient trompés et qu'ils avaient entraîné tout le peuple dans cette erreur. Ils ne vont pas le faire. Et nous devons nous poser cette question de nous demander si nous aurons la force et le courage un jour de reconnaître que nous nous sommes trompés, peut-être pendant une partie de notre vie, peut-être pendant toute notre vie, peut-être même que ce message va nous troubler et nous interpeller, et est-ce que nous aurons le courage et la force de revenir sur nos opinions et de dire à ceux qui sont autour de nous et qui nous en parlaient depuis quelque temps, eh bien oui, je reconnais que je me suis trompé. Les pharisiens ne le font pas, et non seulement ils ne le font pas, mais ils vont même décider de s'opposer en fait au plan de Dieu et de s'opposer à cette résurrection. En donnant une forte somme d'argent, là aussi les détails sont importants, hein, une petite somme n'aurait pas suffi à pousser ces soldats à mentir et à prendre un risque. Hein. Ils vont aller voir le gouverneur pour leur dire « voilà, on s'est endormi et puis ils ont volé le corps, donc on n'a pas bien fait notre travail hein. ». Les pharisiens vont donner une forte somme d'argent et ils vont même rassurer les soldats. Ne vous inquiétez pas, si le gouverneur vous pose des problèmes, eh bien on vous défendra. Hein. Ils vont jusqu'au bout s'opposer en fait au plan de Dieu, s'opposer au projet de Dieu par fierté, par orgueil. Hein. Et on constate dans le texte que c'est pas en fait une opposition spontanée, quelque chose qui ne serait pas réfléchi et qu'on pourrait peut-être presque excuser en disant « oui, mais vous comprenez, pour eux c'était difficile, c'est quelque chose d'impossible à croire » et ils réagissent spontanément. On voit dans le texte qu'ils se sont rassemblés, qu'ils ont rassemblé le conseil des anciens et qu'ils ont pris une décision commune. Nous allons donner de l'argent aux soldats, nous allons les faire mentir et nous allons propager ce mensonge. Et Matthieu note dans son évangile et dans cette fin d'évangile, eh bien que ce mensonge, cette histoire s'est répandue et qu'elle se répand encore parmi les Juifs. L'idée que les disciples ont volé le corps de Jésus. Et si on s'arrête quelques instants sur les arguments contre la résurrection, hein, on comprend qu'il y a des gens qui s'opposent à la résurrection et qui n'y croient pas. C'est incroyable. Mais on entend en fait hein, tous ces arguments. Le corps a été volé, Jésus n'était pas vraiment mort, Jésus avait peut-être un jumeau qui lui ressemblait et qui est apparu et qui a fait croire que c'était lui. On retrouve ces idées dans l'évangile selon Judas, hein, d'Éric Emmanuel Schmitt, ou bien dans le film qui est passé récemment dans nos salles de cinéma, Jésus l'enquête. On voit en fait que rapidement, et puis jusqu'à aujourd'hui, des gens se sont opposés à l'idée de la résurrection et ont essayé de montrer qu'il y avait des failles dans ce récit. Or, quand on examine de façon attentive les récits, on voit que tous les détails hein, nous aident à voir que les témoins ont raconté quelque chose de précis, que les témoins ont raconté quelque chose qu'ils ont certainement vu, et que tout ça est probable. Alors ensuite, il suffit de se décider hein, et de se demander en fait si nous y croyons ou pas. Et nous voyons que dans ce récit, les femmes y ont cru. Et nous voyons que dans ce récit, les chefs pharisiens y ont peut-être cru, mais n'ont pas voulu admettre. Et je pense que c'est une des choses qui est incroyable et qui est impressionnante. Il y a peut-être des gens autour de nous, et peut-être que nous faisons partie de cela, des gens qui finalement, au fond d'eux-mêmes, croient un petit peu, mais refusent d'admettre. Et je vous invite peut-être à réfléchir à ça. Si jamais vous êtes un peu touché, si des gens vous ont parlé, et que vous avez l'impression que c'est peut-être vrai, eh bien essayez de faire ce pas courageusement, parce que votre vie pourrait changer. Et on va découvrir tout ça en fait dans la fin du récit. Lorsque Jésus a rassemblé ses frères, alors Matthieu nous évite les apparitions en Judée et à Jérusalem, il se concentre sur cette apparition en Galilée, sur la montagne. Lorsque Jésus rassemble ses 11 disciples, et on constate en fait qu'il rassemble sa garde rapprochée, hein, vraiment ceux qui ont été les plus proches, lorsque les disciples voient Jésus ressuscité sur la montagne, certains ont encore des doutes. Et je ne sais pas si quand je vous ai lu ce texte, vous avez été frappé par cette réalité-là, mais c'est impressionnant de se dire que les 11 disciples, hein, ils sont 11 parce que Judas n'est plus là, Judas s'est donné la mort, hein, ces 11 disciples voient Jésus ressuscité et certains parmi eux ont encore des doutes. Et je suppose, en tout cas j'espère, que ce texte, cette réalité vous montre combien le texte biblique est puissant, combien il est sensible, sincère. On n'est pas en train de nous raconter une histoire facile, on n'est pas en train de nous raconter une histoire pour les enfants. On nous parle en fait des doutes de disciples qui ont vécu pendant 3 ans avec Jésus, de disciples qui ont vu des miracles, de disciples à qui Jésus a dit « je vais mourir et je vais ressusciter » et de disciples qui, voyant Jésus ressuscité devant eux, ont encore du mal à y croire. Je suis émerveillé en fait que cette phrase soit encore dans les évangiles et qu'on ne l'ait pas enlevée en se disant « non, ça fait pas sérieux quand même, s'ils sont devant Jésus, ils le voient, ils y croient ». Nous avons dans tous ces récits la marque de notre humanité, notre difficulté à croire, notre difficulté à reconnaître Jésus ressuscité, même lorsqu'il est devant nous. Et je ne sais pas vous, mais moi je me dis souvent que j'aurais aimé vivre au temps de Jésus, et que c'était certainement plus facile lorsqu'on était à cette époque-là, lorsqu'on avait pu assister aux enseignements de Jésus, aux miracles de Jésus. Et si on faisait partie des 11, on se dit que ce sont les privilégiés, on se dit que pour eux, c'était simple, c'était facile. Et on constate que non seulement Judas s'est opposé à Jésus, mais Thomas, hein, on le voit dans l'évangile de Jean, je crois, Thomas lui aussi a eu des doutes. Il a dit « je veux voir Jésus ressuscité, je veux mettre ma main dans ses plaies, voir les marques sur ses poignets, et là je croirai ». Jésus va permettre à Thomas de voir ses signes, hein, les signes de sa souffrance, mais il va aussi prononcer cette parole importante hein, « toi tu crois parce que tu as vu, heureux ceux qui vont croire sans voir ». Et aujourd'hui nous en sommes là. Nous ne croyons pas sur la base de rien, ce n'est pas un saut dans le vide, mais nous sommes appelés à croire ce que d'autres ont vu et ce qu'ils nous ont raconté. Et puis peut-être qu'il faut aussi dans ce récit s'arrêter quelques instants sur ce mot d'ordre. Jésus, au final, va donner une sorte de testament dans l'évangile de Marc. Lorsqu'on lit la fin de l'évangile de Marc, eh bien, il s'agit simplement de prêcher la bonne nouvelle. Ici, Jésus va être un tout petit peu plus complet. Il va prononcer un ordre en 3 parties, hein, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les et enseignez-leur à mettre en pratique ce que je vous ai prescrit ». Il y a une sorte de triple ordre. Et puis il y a ce mot « Allez » qu'on a retrouvé déjà pour les femmes, lorsque l'ange leur a dit « Allez maintenant, allez voir les disciples, dites-leur qu'ils doivent m'attendre en Galilée ». Ici, Jésus dit aux disciples « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Il y a un ordre qui est donné. Jésus n'est pas simplement en train de nous donner des conseils, il n'est pas en train de nous dire « ce serait bien d'aller vers les autres, ce serait bien de témoigner de votre foi, ce serait bien de faire des disciples ». Il nous donne un ordre. Et si nous sommes chrétiens, si nous sommes enfants de Dieu, si nous avons cru un jour que Jésus était mort et qu'il était ressuscité, eh bien nous sommes face à cet ordre que Jésus donne à tous ses disciples. Il l'a donné aux 11, mais cela veut dire qu'il nous le donne à nous aussi. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Souvent, nous avons tendance à oublier certaines des parties de cet ordre. Nous sommes prêts à baptiser les gens, à les amener à une certaine conviction qui fait qu'ils entreront dans l'Église. Mais est-ce que nous avons fait des disciples? Est-ce que nous avons aidé des gens à devenir des disciples de Jésus? C'est-à-dire à décider que Jésus était leur maître, à décider qu'ils allaient se placer au pied de Jésus pour suivre son enseignement, pour boire ses paroles, pour écouter ce qu'il allait dire. C'est ça un disciple. Lorsque nous entendons cette parole de Jésus, nous devons nous demander ce qu'elle veut dire vraiment. Qu'est-ce que cela veut dire de faire des nations des disciples? Nous devons comprendre qu'un disciple à cette époque, c'était quelqu'un vraiment qui s'attachait à son maître. Quand Jésus dit de faire toutes les nations des disciples, on comprend qu'il s'agit de tout le monde, de toutes les nations, de tous les peuples, de tous les étrangers aussi, de tous ceux qui ne sont pas juifs, mais qui vont avoir ce privilège de connaître Christ, de devenir son disciple, d'être baptisé, et du coup ensuite de mettre en pratique tout ce qui a été prescrit. Je pense aussi à toutes ces églises ou à toutes ces personnes qui pensent aussi qu'avant d'être baptisé, il faut être un disciple. Et pour eux, cela veut dire qu'il faut avoir suivi un enseignement très long, un enseignement sérieux. Je ne dis pas que tout cela est mauvais, mais quand nous lisons le livre des Actes des Apôtres, nous voyons que les diacres, les apôtres, ont compris cette parole différemment. Lorsque Philippe, le diacre, se retrouve devant l'eunuque éthiopien et qu'il explique à cet eunuque qui est Jésus, à partir du livre du prophète Ésaïe, eh bien l'eunuque demande « Bon, ben, je crois que j'ai tout compris, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Sous-entendu, cet eunuque se dit « Je suis eunuque, je suis impur, je n'ai eu qu'un petit enseignement, est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche que je sois baptisé ? Est-ce qu'il faut que j'ai un enseignement plus long, plus sérieux ? Est-ce qu'il faut que pendant 2 ans je suive un catéchuménat ?» Eh bien, Philippe va dire « Si tu crois que Jésus est Sauveur et Seigneur, tu peux être baptisé maintenant » et cet homme va être baptisé. Je ne suis pas en train de dénigrer le catéchuménat, je ne suis pas en train de dénigrer, de dire qu'il faut se faire baptiser très rapidement, mais je suis en train de montrer que le baptême ne doit pas devenir non plus un diplôme. Hein. Il ne s'agit pas de donner un diplôme à des gens qui seraient devenus de bons chrétiens, il s'agit de dire à des gens qui croient que Jésus est mort et ressuscité, alors est-ce que vous décidez d'être des disciples de Jésus? Et si vous décidez d'être des disciples, vous devez être baptisé. Et si vous êtes baptisé, eh bien vous devez décider aussi de suivre, hein, petit à petit tout ce que je vous ai prescrit. Je voudrais terminer en disant que cet ordre de Jésus est encadré par deux paroles terriblement importantes. Jésus rappelle que tout pouvoir lui a été donné, hein, sur le ciel et sur la terre. C'est pour ça que ce commandement sera possible. Et Jésus termine en disant « Voici, je serai avec vous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Sans ces deux paroles, cet ordre que Jésus nous donne serait impossible à suivre. Nous devons prendre conscience que Jésus a tout pouvoir, qu'il est Dieu. Et nous devons réaliser qu'il nous promet d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce Jésus qu'on peut appeler l'étoile du matin, ce Jésus ressuscité, c'est ce Jésus que nous voulons chanter, adorer. J'espère que c'est ce qui est dans votre cœur. Je vous invite à écouter une chanson du chanteur sud-africain Pat Burning qui chante Jésus en le présentant comme l'étoile du matin. Et je vous souhaite une bonne journée.
Venez danser, chanter ensemble, entonner sous beau refrain. Ne restons plus dans la pénombre, nous sommes affranchis de la longue nuit. Nous avons vu l'étoile du matin. Des années d'emprisonnement, ignorant de l'espérance, dans le noir et le tourment de nos vies privées de sens. Mais la fin de notre désarroi, c'est Jésus, l'auteur de notre foi. Venez danser, chanter ensemble, entendez ce beau refrain. Ne restons plus dans la pénombre, nous sommes affranchis de la longue nuit. Nous avons vu l'étoile du matin. Fait naître le soleil, qui nous donne la lune claire. Le Seigneur est sans pareil, il est pour nous un repère. Et ce qui a changé notre sort, c'est que Jésus a vaincu la mort. Venez danser, chanter ensemble, entonner ce beau refrain. Ne restons plus pénombre, nous sommes affranchis de la longue nuit. Nous avons vu l'étoile du matin. Que les nations le voient, que le ciel entende, annoncez-le à vos voisins. Que les chantres s'avancent en proclamant: voici Jésus, l'étoile du matin. Voici Jésus, l'étoile du matin. Que les nations le voient, que le ciel l'entende, annoncez-le à vos voisins. Que les chantres s'avancent en proclamant: voici Jésus, l'étoile du matin. Voici Jésus, l'étoile du matin.